BPM Vernon 99.3. 99.3.
Et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission cette semaine où nous recevons l'association des Amis des Enfants du Monde avec Manon Savard. Bonjour Manon, comment
bonjour
ça va?
Bonjour Robin, très bien, merci beaucoup.
Merci d'être venu ici sur notre antenne. Maintenant, t'es une habituée de la radio. On en parlait justement. Pour nos auditeurs qui redécouvriraient... toi qui te redécouvrais tout simplement, présente-toi, qui es-tu pour nos auditeurs?
Oui, si tu veux. Alors moi, c'est Manon Savard, donc je suis une Vernonnaise, donc j'ai grandi à Vernon, etc. Et aujourd'hui, je travaille au sein de l'association Les Amis des Enfants du Monde en tant que chargée de développement de la vie associative. L'idée en fait de l'association, c'est de venir développer les droits des enfants à travers le monde en solidarité internationale. Donc en fait, mon ONG vient supporter d'autres ONG locales dans les pays pour leur permettre de développer les droits des enfants dans ces pays, etc.
D'accord, donc c'est un vrai travail main dans la main.
Exactement, voilà.
Au niveau local.
Ça. Exactement.
Ton rôle exactement, en quoi est-ce qu'il consiste du coup
Alors, être chargée de développement de la vie associative, c'est-à-dire s'occuper de tout le réseau bénévole en France. Donc aujourd'hui, les Amis des Enfants du Monde, c'est un réseau de bénévoles d'environ 800 bénévoles à travers France. Donc on a un plutôt beau réseau. Et l'idée, c'est de venir les aider, leur donner un peu des clés, des outils, de la communication, tout ce qui va pouvoir en fait leur permettre à la fois de collecter des fonds, donc nous, qu'on va reverser à nos partenaires dans les pays, et à la fois de augmenter notre notoriété, nous faire connaître et faire connaître aussi les droits des enfants.
C'est un peu un travail de communication aussi autour, autour des différents réseaux sociaux, autour des différents bénévoles, donc du coup présents partout en France.
Exactement, en fait l'idée c'est à chaque fois d'essayer d'augmenter notre notoriété pour pouvoir avoir plus de donateurs, pour pouvoir faire connaître un petit peu notre combat et pouvoir honorer nos partenariats et financer en fait ces autres ONG qui travaillent tous les jours pour le droit des enfants.
Comment est-ce que tu as connu cette association et comment est-ce que tu t'es retrouvé en tant que salarié maintenant de l'asso?
Bah, c'est assez rigolo comme histoire parce que c'est en lien avec ce dont on va parler. C'est la course zéro en fait. Donc moi, j'ai commencé en tant que bénévole dans cet asso. Donc pour la petite histoire, c'était en 2020 où au sortir du Covid, j'avais un peu envie de m'engager. Enfin, je m'étais un peu stabilisée dans la vie, etc. Et à côté de ça, en plus, j'étais sportive. Je courais beaucoup et j'avais très envie de faire une course avec un de mes frères avec qui je fais aujourd'hui la course zéro. Et donc c'est pour ça, en fouillant un petit peu avec mon frère Geoffroy, on a découvert la course zéro et notamment le fait qu'on pouvait courir pour supporter une association. Et on a trouvé ça super de pouvoir mêler les deux, en fait, le côté sport et le côté engagement. Et on s'est lancé là-dedans. Et donc, je me suis inscrite. Donc, tu deviens héros quand tu t'inscris à la course des héros. Et je suis devenue héros pour l'association Les Amis Enfants du Monde. Et à ce moment-là, ils m'ont contactée. On a pu échanger. Ils m'ont présenté l'association. Et petit à petit, plus moi, je participais à la course, plus j'avais des contacts avec eux où ils me présentaient d'autres choses.
Plus tu t'impliquais aussi.
Exactement. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est cet asso. J'avais envie de m'impliquer dans celle-ci. Donc, une fois que la course zéro est passée, je les ai contactés pour leur dire que j'étais très intéressée pour devenir bénévole. Et de là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je n'en suis plus sortie parce que ils ont vraiment tout un réseau de, enfin, pas un réseau, mais un processus de formation, de présentation de l'association, d'intégration qui était hyper intéressant. Et en fait, je suis devenue bénévole en fait pour cette association. Donc j'ai fait diverses formations parce qu'à la fin, je suis devenue bénévole équipière secteur dans notre jargon, c'est-à-dire que s'occuper de tout le secteur Éthiopie. Enfin, je me suis retrouvée, pardon, à m'occuper de tout le secteur Éthiopie et à gérer les partenaires qu'on avait là-bas, donc les ONG locales, et tout ça en tant que bénévole. Et au bout de 6 mois, 8 mois d'engagement, quoi, de formation, etc. Donc, ça a été très enrichissant pour moi personnellement. Et en fait, de là, je dirais 1 an et demi, 2 ans de bénévolat, et au moment d'une grosse remise en question un petit peu de ma vie professionnelle à cette époque, j'ai vu passer une annonce pour l'association donc, dans laquelle j'étais bénévole, les Amis Enfants du Monde, où ils cherchaient un chargé de développement de la vie associative. Et en lisant l'annonce, je me suis rendu compte que c'était très en lien avec que je savais faire et ce vers quoi j'aspirais, parce que je faisais pas tout à fait ça, mais il y avait quand même des ponts qu'on pouvait créer là-dedans. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai décidé, en fait, de postuler. Et puis voilà. Mais voilà, je suis presque à 2 ans, là, maintenant, d'ancienneté dans l'asso. Et ça se passe très, très bien.
Ce qui est marrant de voir, c'est que au final, t'es tombé un peu par hasard aussi sur l'association. Donc c'est assez marrant de voir tout le parcours fait depuis cette recherche comme ça.
C'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder en arrière d'où on vient, de comment on est arrivé là. Et c'est vrai que là, moi, ça a été vraiment sans la course zéro, sans le sport, on va dire, sans cette volonté de s'engager après, etc. On n'en serait pas arrivé là. Donc, c'est assez intéressant de voir comment, au final, j'en profite pour vendre un petit peu le bénévolat, mais au final, on se rend pas compte comme ça d'opportunités, même bénévoles, vers quoi ça peut nous mener, quoi. Donc, moi, ça m'a changé un petit peu de vie professionnelle, quoi. Et même de vie complète, maintenant.
Oui, puisque humainement, c'est aussi une véritable aventure, une véritable expérience.
Ouais, complètement. Bah, moi, je suis quand même passée d'un grand groupe où j'étais en ressources humaines à maintenant une asso où je fais du développement de vie associative. Donc, on est quand même sur deux choses assez opposées, on va dire. Mmh. Et après, bon, je dénonce pas du tout, hein, parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience dans le grand groupe, etc. C'est juste qu'à un moment, j'étais arrivée à la limite, en fait, de mon aspiration, de vers quoi je voulais aspirer. Et c'est vrai que j'ai pu être formée par ce groupe, etc. Donc, c'était très bien. Mais moi, j'avais besoin. On va revenir un petit peu dans les standards, on va dire, enfin, dans la pensée actuelle, mais de donner du sens, en fait, à ma vie professionnelle, de savoir ce que je fais, me rapprocher un peu de ce métier passion dont on parlait tout à l'heure, tous les deux. Mais j'ai pas une passion, moi, par exemple, musique. J'ai pas une passion ciné. J'ai pas une passion comme ça. Peut-être une petite passion sport et encore pas forcément très développée. Je crois que c'est ce qui se rapproche aujourd'hui le plus de ce que je pourrais appeler une passion, en gros, l'humanitaire.
L'humanitaire.
Ouais, exactement.
Pour en revenir, du coup, tu nous parlais tout à l'heure, donc les objectifs, rappelle-nous les objectifs de l'association des Amis des Enfants du Monde.
Alors l'objectif, clairement, le gros objectif, c'est de construire un avenir durable pour les enfants, donc développer les droits des enfants, etc. Dans l'idée, il faut se dire que nous, on part du principe que la génération de demain, déjà, ce sera la génération qui pourra nous aider à développer en fait le monde. Le futur appartient aux enfants, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller développer leurs droits, s'assurer qu'en fait, ils ont toutes les conditions pour pouvoir grandir et s'épanouir sereinement. Et au-delà de ça, c'est aussi parce que l'enfant est quand même la catégorie aujourd'hui la plus vulnérable sur Terre, en plus des personnes âgées, si on peut dire ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de combiner ces deux aspirations pour pouvoir dire que les enfants on va développer leurs droits et ils vont pouvoir grandir sereinement et ainsi influer sur le futur, quoi, en gros. Et donc, nous, comment on fait ça? On repère des ONG locales dans les pays. Donc, on est présent dans 14 pays aujourd'hui, dont la France. On est présent en France aussi. Et l'idée, c'est qu'on repère ces ONG locales qui ont des valeurs qui nous correspondent. Et de là, on met en place tout un projet de financement avec ces ONG dans le but de les aider à se développer et donc de développer les droits de l'enfant. Donc, on crée une convention de partenariat. Mmh. On se met en partenariat sur un certain temps ensemble. Et comme ça, on les finance, etc. Et ça permet de se développer. Et donc, pour donner quelques chiffres, pour avoir une idée de tout ça, aujourd'hui, on est présent dans 14 pays. En tout, on a 66 partenaires, donc des ONG locales qu'on va supporter. Et dans ces ONG, on a 70 programmes de financement. Mmh. Un programme, ça peut être, par exemple, financer le salaire d'un professeur dans une école. Ça peut être financer la construction d'une cantine, financer les repas des enfants sur un an. Ça peut. On a plein de champs d'intervention qui sont liés à l'enfant. Donc voilà.
Oui, il y a des interventions qui peuvent être plus directement vraiment toucher tout de suite l'enfant,
exactement,
comme un peu plus indirectement, comme par exemple le salaire avec des enseignants.
Et on va même aller un petit peu plus loin dans le toucher indirectement parce que nous, l'idée, c'est de pas juste. Enfin, on est vraiment orienté sur l'aide à l'enfance, mais on est aussi orienté sur l'idée d'aider aussi tout ce qui va entourer l'enfant, la communauté, etc. Donc déjà, on part jamais dans des projets où la communauté n'est pas sensibilisée en fait à tout ça, où c'est une asso qui fait ça dans son coin sans l'aide du village, sans l'aide de la communauté, etc. On s'assure que vraiment c'est quelque chose qui est compris de tous et qui est pris en main par tous. Et nous, on vient juste d'apporter cette aide financière. Et tu vois, un exemple d'aide complètement indirecte qu'on peut amener, c'est en Éthiopie où on est présent dans la ville de Kémissé. Et où, en gros, là, on met en place des microcrédits à des femmes pour leur permettre d'ouvrir leur petit business, on va dire, et de rembourser ce microcrédit derrière. Et ceci derrière, en fait, pourquoi on fait ça? C'est pour aller influer sur les droits de l'enfant, parce qu'on a compris, en fait, avec l'ONG avec qui on met en place ça, que derrière, ça permet aux femmes déjà de devenir indépendantes, de pouvoir financer un petit peu tout ce qui va être concerné l'alimentation, le futur, etc. de leur famille, de ces femmes. Et en plus de ça, ça permet aux enfants, en fait, de ne pas aller travailler, de ne pas avoir à financer tout ça et d'aller à l'école, en fait. Donc nous, bien sûr, la condition, c'est OK, on finance les microcrédits, mais que si les enfants vont à l'école. Et une fois que ça s'est bien mis en place, ben voilà, en fait, en influençant sur les parents, on influence aussi sur tout ce qui va concerner le droit de l'enfant.
Et ce qu'il y a d'intéressant et d'important aussi, c'est dans ce cadre de rendre les femmes aussi indépendantes dans ces pays-là, c'est au moins on donne aussi un modèle, un exemple pour les petites filles qui...
Exactement, voilà. L'idée, c'est vraiment de montrer que, voilà, femme ou homme, peu importe, lutte contre les discriminations, en fait, on peut s'en sortir, quoi. Il n'y a pas de déterminisme, on va dire, suivant son genre, etc. quoi.
C'est favoriser l'égalité des chances.
Exactement, exactement là-dedans.
Pour en revenir, tu disais tout à l'heure, donc en France, c'est vrai qu'en France, ça nous surprend quand même un petit peu parce que on reste un des pays les plus développés, en tout cas dans le monde. C'est étonnant aussi de voir que vous êtes obligé entre guillemets d'agir ici sur le territoire.
Ouais, bien sûr. Alors nous, c'est quelque chose d'assez récent. Ça. On a commencé à amener des financements en France il y a 2-3 ans à peu près, 3-4 plutôt. Et en fait, ça a été un gros débat chez nous. Mais il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a quand même un gros sujet sur notamment tout ce qui va concerner les mineurs migrants. Aujourd'hui, avec toute la crise migratoire, etc., on a énormément d'enfants qui arrivent ici, qui n'ont aucune identité, en fait, qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien du tout, et en fait, qui sont complètement délaissés à la rue, qui ne sont pas du tout intégrés dans le système. Et on va venir supporter des associations qui vont travailler en ce sens, en fait, dans le sens d'intégrer... mieux ces jeunes qui arrivent de nulle part et s'assurer en fait qu'ils soient pas dans la rue, qu'ils puissent intégrer le système, qu'ils puissent apprendre la langue, être éduqués et en fait derrière devenir français quoi. Donc voilà.
Ça passe par quoi ? Par des cours de français, par des activités
Ouais, alors ça passe déjà par du repérage hein, dans les rues. On a une asso qui va s'occuper de repérer, de faire des maraudes, de s'assurer de tous les enfants qui sont dans la rue, dans les camps, etc. Et après oui, ça passe par de la mise en place de foyers, d'éducation, de la mise en place d'intégration via la langue, via l'école, via tout ça, en gros.
Et donc toi, tu continues de gérer un petit peu le secteur en Éthiopie, c'est ça ?
Alors non, plus maintenant. Je l'ai géré jusqu'à décembre 2022. Et après, bon, bah, maintenant, j'ai dû laisser ça de côté parce que c'est vrai que c'était une activité bénévole que je faisais.
D'accord.
Et donc maintenant, je me suis vraiment recentrée sur tout ce qui était plutôt mon salariat. Mais j'ai eu la chance, l'opportunité cette année de pouvoir aller sur le terrain en Éthiopie. Donc j'y suis allée en octobre. C'était pour terminer en fait, pour boucler ma boucle de bénévolat sur ce secteur. Et donc là-bas, j'ai pu aller rencontrer justement les partenaires, rencontrer les enfants, rencontrer tout ça et pouvoir en fait derrière déjà analyser les besoins, comprendre en fait, comprendre ce qui se passe dans le pays, pourquoi ils ont besoin de tout ça, dans quelle mesure. Quels sont les financements qu'on apporte, pourquoi ils sont utilisés, etc. pour pouvoir en fait informer les donateurs derrière de la raison valable de tous ces financements. Et derrière, aller voir aussi s'il n'y a pas d'autres assos qui auraient besoin d'aide, donc faire de la prospection. On est toujours en prospection quand on est sur le terrain en mission. Et en plus de ça, pouvoir aussi derrière rendre compte de la situation là-bas, en fait.
Ouais.
Notamment aujourd'hui, un peu tous les pays dans lesquels on est. Moi, je vais plutôt parler de l'Éthiopie parce que je connais bien vu que j'y suis allée cette année. Mais... c'est des pays aujourd'hui qui vivent des crises, quoi, des crises énormes. Et on a tendance à penser, par exemple, nous, au Covid, où ça a été une énorme crise. La plupart des pays qu'on aide, le Covid était la crise numéro 4 dans leur liste de problèmes, en gros.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est très intéressant d'aller sur le terrain, de se rendre compte de ça et après, de pouvoir le relayer, en fait, d'en parler, etc. Donc, voilà.
Ça permet de voir vraiment le concret du travail qu'on a fait aussi en amont.
Exactement, ouais. Et de voir aussi le concret de à quoi ça sert, de voir, tu vois, je vais donner un exemple comme ça pour pouvoir imaginer, mais on est allé en Éthiopie, donc à Aleltou, où on a notre partenaire qui s'appelle ECF, pardon, Ethiopian Children Funds. Et en fait, là-bas, c'est une école qui a été construite et on croirait vraiment que c'est une école, ça pourrait être une école privée française, quoi. Enfin, où les enfants ont tous un uniforme, où tout est hyper bien encadré. Enfin, les locaux sont nickels, ils ont des ateliers, ils ont, tu sais, ils sont pas non plus sur du Montessori, mais on n'est pas très loin de ça, tu vois, où vraiment il y a tout ça. Et quand tu arrives là-dedans, tu te dis waouh, c'est magique et tout. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, nous, on fait la visite de la structure et en plus de ça, on va visiter les familles des enfants à qui on finance tout ça. Et en fait, cette école, quand tu sors de cette école, en fait, tout le reste, c'est un bidonville. Et ouais. T'arrives là-dedans, les enfants qui vont dans cette école, ils vivent dans des trucs qui font 3 mètres carrés, etc. Enfin, tu
sens c'est vraiment deux mondes différents.
Exactement. Et tu sens que cette ONG, donc ECF, depuis 20 ans, son combat, ça a été de faire cette histoire d'égalité des chances. C'est-à-dire que les enfants qui passent par cette école se retrouvent en fait sur le même pied d'égalité que d'autres enfants qui seraient un petit peu plus riches, qui vivent dans
des les plus grandes
plus
villes.
Riches. Exactement. Et en fait, de là, bah, aujourd'hui, ça marche parce qu'ils ont 20 ans de recul et on se rend compte que t'as plein d'enfants qui ont pu aller à l'université. Et quand tu vois d'où ils viennent, tu peux te dire que, enfin, t'imagines pas le lycée public. Je crois que il n'y a pas forcément d'école publique ou l'école publique, elle est, enfin, t'as très peu d'enfants qui y vont vraiment tous les jours, qui sont réguliers et tout là-dedans. Enfin, tu sens que CF leur apporte vraiment cette continuité. En plus, derrière ça, tout enfant qui vient est assuré d'avoir un ou deux repas par jour. Enfin, t'as vraiment toute une logique globale derrière qui est très intéressante et qui est aujourd'hui très importante, je crois, pour se dire qu'on peut pérenniser cette aide, en fait. Les enfants qui vont être aidés, derrière, pourront eux aussi aller aider et on va pouvoir faire bouger les lignes comme ça, en gros. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est important d'aller sur le terrain pour se rendre compte que on se serait arrêté à l'école, en fait, on se serait dit oui, bon, bah, tout va bien, quoi. Il n'y a rien. Et en fait, quand tu sors, tu te rends compte du combat de cette école pour faire, Alors, on pourra jamais faire oublier aux enfants d'où ils viennent et c'est pas le but non plus parce que,
Ça fait partie de leur histoire aussi.
Exactement. Et il faut pas en avoir honte ni rien. Mais par contre, ça leur donne clairement une égalité des chances là-dessus, quoi. Donc, voilà. C'était intéressant de voir ça.
Passons à l'autre sujet, celui dont on a déjà un petit peu parlé, la course des héros. Rappelle-nous l'objectif justement de la course des héros.
Alors, la course des héros, donc c'est pas les Amis Enfants du Monde qui l'organisent, c'est une autre société qui permet en fait à toutes les associations de recruter entre guillemets des coureurs, donc on va appeler des héros, qui vont avoir pour but d'aller courir une certaine distance. Alors, on en reparlera parce que c'est pas forcément que de la course, il y a aussi du défi qu'on peut mettre en place. Et tout en faisant ça, en fait, en se préparant pour cette course, l'idée est de collecter des fonds. Donc derrière l'idée de collecte, c'est aussi déjà de ramener de l'argent à l'association, évidemment pour tout ce que j'ai dit juste avant. Et deuxièmement, encore une fois, pour pouvoir sensibiliser son entourage. Donc ça fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut décider de devenir héros pour une asso, idéalement pour nous, de s'inscrire, etc. Et derrière, d'aller collecter des fonds pour pouvoir participer à cette course. Il y a un minimum. Alors, t'as deux courses différentes, mais on va rester sur celle de la course connectée. T'as un minimum de 150 euros à aller collecter autour de toi.
D'accord.
Ce qui est, quand tu commences à collecter, tu te rends compte que c'est très atteignable. Enfin, c'est hyper facile d'atteindre ça.
Ça va vite.
Ouais, en général. Donc voilà.
Et du coup, on va te retrouver encore une fois avec tes frères pour ce fameux Savaraton, la nouvelle édition pour 2023.
Exactement. En fait, nous, on s'est un peu servi de la course des héros pour créer notre événement à nous au niveau local qui s'appelle le Savaraton. Donc, un peu égocentriquement inspiré de notre nom de famille. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser, nous, tous nos proches, à la cause des Amis Enfants du Monde, etc. Et donc, on est sur la 4e édition, si je ne me trompe pas.
Oui, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est la 4e. Oui, parce qu'on a commencé en 2020, 2021, 2022, 2023. Bien, la 4e édition. Et donc, on se rend compte qu'en fait, dès la première édition, ça a très bien pris au niveau de nos proches, donc nos amis, notre famille, etc. Et depuis, on n'a jamais arrêté. En fait, on s'y remet à chaque fois. On collecte en général. Alors, on l'a fait qu'à deux avec Geoffroy, mon petit frère, pendant 2 ans. Et après, il y a Guillaume qui nous a rejoint, mon grand frère. Mais en général, on est sur une cagnotte à 500 euros chacun.
Donc, d'accord.
On oscille entre les 1000 et 1500 euros de collecte quand on est deux ou trois, quoi, en gros.
Donc on retrouvera tes frères le 2 juillet sur Vernon, du coup, qui vont courir.
Ouais.
Et toi, tu le feras un peu avant, c'est ça?
Alors, pas tout à fait. Moi, je le fais un peu avant. Je le fais déjà le 18 juin parce que, en fait, je participe à l'autre course qui est sur Paris, au Parc Saint-Cloud, qui est là complètement organisée où t'as des stands un petit peu partout. Donc, je serai avec mon stand pour l'asso pour la présenter. Donc, on va dire que c'est mon petit entraînement de 8 km que je vais faire le 18 juin. Et je reviens le 2 juillet avec mes frères pour là, cette fois-ci, faire ce 21 km et des pépettes pour le fameux semi-marathon. Donc, voilà.
Au moins, tu seras bien prête.
Exactement. L'idée, c'est de bien s'entraîner. Donc, voilà.
Pour les cagnottes, comment est-ce qu'on fait pour les retrouver, les cagnottes?
Alors, nous, on a une page Facebook où on a mis toutes les cagnottes. Donc ça, normalement, on a communiqué. Après, je ne sais pas si on peut te passer les liens, toi aussi, peut-être, pour pouvoir les mettre sur...
On verra ce qu'on peut faire.
Ouais.
Mais sinon, sur la page Facebook, ça va, okay. On retrouve facilement.
Oui, on retrouve tout. On a tous nos liens, toutes nos cagnottes, etc. Et à savoir, je tiens à en parler parce que c'est quand même pas négligeable, notamment en cette période de déclaration sur l'impôt sur le revenu, que tout don effectué pour l'association Les Amis Enfants du Monde est défiscalisable à 75% parce qu'on est reconnu d'utilité publique. Donc typiquement, si par hasard vous décidez de donner 100 euros cette année, l'année prochaine, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, vous allez récupérer 75 euros. Donc voilà, c'est une donnée à avoir très importante, ça permet quand même d'avoir des réductions fiscales derrière.
Important de le noter. On en reparlera de toute façon du Savaraton dans les semaines à venir. Pour conclure, l'association des Amis des Enfants du Monde, si on veut vous rejoindre, on vous retrouve assez facilement sur Internet, page Facebook.
Vous avez juste à taper ça. Nous, on est présents sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Donc, on est présents partout. On a notre site Internet aussi. Donc, n'hésitez pas. Après, je pourrais aussi... Vous avez mon nom, vous verrez mon nom, etc. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter moi directement aussi, avec grand plaisir pour vous intégrer si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur notre association.
Eh bien, merci beaucoup, Manon.
Merci à toi, Robin.
Merci donc d'être venu nous parler de l'association des Amis des Enfants du Monde. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM Vernon 99.3.